Promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres?
Ah oui, ils ont un large choix de cache pot 10 litres à seulement 1,99€.
Waouh!
En ce moment chez Jiffy, les cache pot 10 litres sont à seulement 1,99€. Et les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros.
Au bon prix Jiffy, on plante tout!
Offre sur le terreau, valable jusqu'au 15 mai.
Jiffy des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
C'est dimanche, on est bien et on écoute Sud Radio. Il est 11h.
Parlons vrai.
Tout de suite, les informations.
Bonjour à tous. Alors que les bombardements israéliens continuent dans la bande de Gaza, les Nations Unies appellent de nouveau à un cessez-le-feu immédiat. Antonio Guterres, le secrétaire général, réitère son appel à la libération inconditionnelle de tous les otages et une augmentation immédiate de l'aide humanitaire. L'armée israélienne annonce que depuis lundi, près de 300 000 Palestiniens ont quitté Rafah, grande ville du Sud. 35 000 morts palestiniens depuis le début de la guerre, selon le Hamas. À Paris, macabre découverte. Cette nuit, le corps d'un homme à moitié démembré a été retrouvé dans une valise dans le 12e arrondissement. Ce sont les pompiers qui intervenaient près du pont d'Austerlitz qui l'ont découvert. Une enquête pour meurtre est ouverte, elle est confiée à la brigade criminelle. Retour du pont de l'Ascension ce dimanche, bison futé voit rouge sur les routes dans le sens des retours sur tout l'Hexagone. C'est noir dans le quart nord-ouest. D'importants bouchons sont à prévoir, prudence et patience dans la voiture. Le rendez-vous est donné mercredi entre les syndicats et patronat. Le gouvernement lance des concertations sur le nouveau congé naissance dévoilé par Emmanuel Macron cette semaine. Il doit remplacer le congé parental. Dans une interview dans le magazine Elle, le chef de l'État avait déjà esquissé les premières grandes lignes. 3 mois pour les mères, 3 mois pour les pères, cumulables durant la première année de l'enfant. En Espagne, on vote. Aujourd'hui, 5 700 000 Catalans sont appelés aux urnes pour élire leurs députés régionaux. On surveillera le résultat de l'indépendantiste Carl Puigdemont. Le candidat en exil a fait campagne depuis les Pyrénées-Orientales. C'est le socialiste Salvador Illa qui est favori. Il visait la place de la fierté. Slimane termine 4e de l'Eurovision. La finale, c'était hier soir à Malmö, en Suède. C'est la Suisse qui gagne cette édition avec son artiste Nemo. En sport, en rugby, un choc entre le premier et le deuxième du top 14 ce soir. Toulouse reçoit le Stade français à 21h05. Et puis en foot, 33e journée de Ligue 1 ce soir. Plusieurs matchs à suivre. Clermont-Lyon, Montpellier-Monaco et PSG-Toulouse. Le club parisien qui voit sa star Kylian Mbappé partir. Ce sera son dernier match au Parc des Princes ce soir. Voilà pour l'actu. Bonne journée à tous.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio. Alexandre Devecchio.
En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi, sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie, pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Christophe Buisson et Arthur Chevalier. Jean-Christophe Buisson est rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, spécialiste d'histoire. Il a écrit nombre d'essais historiques et anime l'émission Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Arthur Chevalier est éditeur et écrivain, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du CERF, un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions ». D'histoire, il en sera question tout au long de cette émission. Comment raconter l'histoire à l'heure de l'archipel français, de la concurrence mémorielle et de la déconstruction woke? La culture de l'effacement va-t-elle priver les nouvelles générations d'histoire et de mémoire? L'histoire est-elle une affaire de raison ou de passion et d'émotion? Faut-il réenchanter l'histoire et réinventer le roman national? Tout de suite, les réponses de Jean-Christophe Buisson et Arthur Chevalier en toute vérité.
En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Arthur Chevalier, Jean-Christophe Buisson, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Ravi d'être avec vous ce dimanche pour parler d'histoire. Comment la raconter dans notre époque où l'on déboulonne les statues, ce sera notre fil rouge dans cette émission. Arthur Chevalier, commençons avec vous. Vous publiez aux éditions du CERF un essai intitulé L'histoire à l'épreuve des émotions, avant de parler de votre livre, mais c'est en lien en fait avec votre livre, peut-être un mot sur l'actualité, notamment sur ce qui se passe à Sciences Po. On a des comparaisons entre Gaza et Treblinka, des accusations de génocide, des étudiants qui manifestement ne savent pas situer la Palestine sur une carte. Alors là, c'est plutôt un problème de géographie, si vous voulez, mais qu'est-ce que vous pensez de ces analogies chronologie historique et dans votre livre, vous parlez de la, vous inquiétez de la dissolution de la mémoire chez les jeunes générations. Est-ce que tout cela en est un exemple, et un exemple d'autant plus inquiétant que ça se passe dans une école qui est censée fabriquer les élites françaises?
Alors sur ce qui se passe à Sciences Po et dans certaines universités françaises, mais pas que d'ailleurs, hein, puisque c'est un mouvement étudiant qui traverse la planète. Bon, cela dit, ces étudiants, des mouvements étudiants, on les a pas inventés aujourd'hui. Je veux dire, ils ont existé pendant la guerre du Vietnam. Il y en a eu beaucoup. Si on essaye de comprendre ce qui se passe là, relativement au monde dans lequel on vit, qui serait, disons, plutôt émotif que raisonnable ou rationnel, puisque c'est un peu mon idée, quoi. Je dirais que ce qui me frappe, c'est dans les prises de parole. Donc, j'essentialise pas tous les étudiants. Je parle de ceux qu'on entend et qu'on voit. C'est typiquement le raccourcissement du temps, le rétrécissement du temps. C'est-à-dire que, par exemple, depuis deux semaines, on entend parler de l'opération de représailles israélienne à Gaza. Je leur laisse le mot de génocide que moi je n'emploierai pas, surtout à l'encontre des juifs. Je pense qu'on voit quand même l'indélicatesse évidente, si ce n'est l'outrance qu'il y a dans l'emploi de ce mot. Mais si on part de ce qu'ils racontent, je trouve ça dingue que plus personne ne parle du 7 octobre, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on analyse ce qui est en train de se passer relativement à trois semaines d'exercice, entre guillemets. Donc là, le 7 octobre n'existe plus. De même d'ailleurs que n'existe plus le très long conflit entre les populations israéliennes et palestiniennes qui court depuis la moitié du 19e siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans même vouloir faire état de ce qui se passe en ce moment, c'est une histoire, nous le savons tous, très longue, très complexe, très nuancée. Il y a d'ailleurs des historiens très qualifiés sur ce sujet, on en parle beaucoup. Depuis le début de l'année, ils défient sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio. Donc je veux dire, c'est pas comme si on n'était pas dans le jus en ce moment. Eh bien non, là vous avez des individus, et d'ailleurs je ne leur prête pas les pires intentions du monde, car je pense qu'ils sont sincères. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais je pense qu'ils sont sincères. C'est-à-dire que se forme une opinion sur quelque chose à partir d'images très frappantes qui ont l'air d'être sincères, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se cristallise, mais personne ne prend le temps, entre guillemets, eh bien, de lire cette histoire dans le temps long. Et je trouve ça très frappant quand même que dans ces prises de parole, à une époque, il y avait une vie étudiante et intellectuelle au sein de ces mouvements qui était quand même un peu plus intense. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a juste des insultes à l'endroit d'Israël, voire même des Juifs, parce qu'on le sait, il y a des étudiants refusés à l'entrée des facultés, puisque c'est aussi un mouvement qui suscite un antisémitisme, c'est réel. Des indignations relativement à ce que des individus à Gaza sont en train d'être des victimes, ce qu'ils sont objectivement, c'est pas la question. Mais enfin, on s'arrête là, vous voyez. Donc là, vous voyez bien que tout à coup, l'émotion vaut raison, et au nom de l'émotion, tout est permis.
Jean-Christophe Buisson, Arthur Chevalier nous disait... À la fois, il y a quelque chose de nouveau, le côté émotionnel, le manque de structure, et en même temps, c'est vrai que ce type de mouvement a toujours existé. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le siècle rouge. L'extrême gauche a toujours instrumentalisé l'histoire.
Oui, mais alors, d'abord, ce qu'a dit Arthur est très juste. Il n'y a plus de débat possible. Quand on parle des mouvements d'extrême gauche des années 60-70, c'était autrement plus prégnant dans l'université qu'aujourd'hui. On a quand même des toutes petites minorités qui agitent tout ça, mais il y a une masse informe qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, et ces minorités sont fortes de la faiblesse du troupeau. Dans les années 70, vous aviez des étudiants, par exemple des étudiants royalistes, des étudiants maoïstes, qui avaient fait un débat, comme a pu faire Bellamy quand il est allé faire un débat chez Libération, qui a donné un livre qui s'appelle Mao ou Maurras. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui ce type de débat possible et qui donne la publication d'un livre?
Pourrait pas mettre Maurras dans un titre, vous difficilement, même si vous, vous
non,
l'avez
mais,
fait.
Mais... En tout cas, le débat était insensé, mais ce qui est plus important, et ce que dit très bien Arthur Chevalier dans son livre, le problème aujourd'hui, c'est l'inculture de ces gens-là. Vous l'avez dit, ils savent même pas ce qu'est la déclaration Balfour, ils savent même pas la date de l'indépendance d'Israël, ils ne réagissent qu'en fonction d'une inculture. Dans les années 70, lorsque vous aviez des débats et ce que vous dites également dans votre livre sur les déconstructeurs, sur Bourdieu, quand Bourdieu déconstruit, il déconstruit pas gratuitement, il déconstruit un système pour en proposer un autre, qu'on peut discuter lui-même et qu'on peut déconstruire lui-même. Aujourd'hui, ces gens-là ne pensent qu'à détruire une culture par leur ignorance, par leur inculture, par leur médiocrité historique, sociologique, ils répètent des slogans qu'ils ont vus, entendus à la télévision, à la radio, mais ils sont incapables de raisonner, encore moins de débattre. Moi, c'est ça qui me frappe dans ce moment wokiste, auquel on accorde trop d'importance, à mon sens, parce qu'encore une fois, c'est une ultra-minorité, et une minorité qui ne discute pas. Vous voyez bien, quand on vient les filmer sur les campus américains, ils disent non, Pas vous, pas les médias. On a nos propres médias, donc vous adressez à nos médias. C'est la communautarisation à un point extrême, l'absence de débat et l'absence de culture. Voilà pour moi ce qu'est ce mouvement wokiste à Sciences Po et dans les autres universités.
Mais justement, c'est intéressant, pardon, je complète juste ce que disait Jean-Christophe, c'est-à-dire que effectivement, ce qui est très frappant, c'est l'absence de récits alternatifs. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des récits qui s'affrontaient. Il n'y a rien de très choquant à ce que gens de sensibilité de droite aient une idée de ce qu'est le récit et l'autre une idée de ce qu'est leur récit. Vous voyez, ça, c'est pas choquant, c'est normal, on est des individus différents avec des cultures différentes. Mais là, effectivement, il n'y a pas de contre-récit, il n'y a pas de récit alternatif structuré, de sorte d'ailleurs qu'on est assez désarmé face à tout ça, parce qu'on ne sait même pas quoi dire.
Il y a quand même le récit, la légende noire, quoi. C'est un récit de repentance absolue, puisque là, Israël est visé, mais c'est très souvent l'Occident en réalité ils sont wokistes mais ils sont décolonialistes comme ils l'expliquent.
Ouais, mais sur ce sujet-là ils disent grosso modo la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire détruisons Israël. Je veux dire, au moins les Israéliens ils proposent proposent deux États. Ouais. Mais ils proposent même pas deux États. Plus de juifs, plus d'israéliens, plus d'Israël. Voilà. Donc c'est pas, alors là, pour le coup, on est dans l'absence totale de récits alternatifs.
Dans une forme de néant que dénonce très bien Arthur Chevalier dans son livre. Est-ce que ce néant, malgré tout, il vient pas de loin? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation, d'enseignement de l'histoire à l'école? Parce que on parle quand même d'individus qui sont à Sciences Po. Comment ont-ils pu arriver à Sciences Po sans avoir un minimum de notions historiques? Par ailleurs, ça vient après des décennies où on a des décennies de concurrence mémorielle, d'antiracisme victimaire. Est-ce que c'est pas l'aboutissement finalement de ce processus-là? Je sais pas, Jean-Christophe Buisson.
Moi, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, y compris au XIXe siècle, dans l'enseignement républicain, du récit national républicain, on a mis en avant des héros. Les héros, ça date de l'Antiquité, même si le terme héros vient du 14. Dans la langue française, ça arrive seulement en 1370, mais avant, vous avez les héros grecs qui sont des demi-dieux, vous avez les chevaliers, les héros laïcs que sont les pro-chevaliers et les saints qui sont des héros religieux. À partir du XVIIe siècle, vous avez un héroïsme militaire, aristocratique, qui commence à converger avec un héroïsme culturel. Là, c'est l'héroïsme cultuel, c'est le Cid, c'est des figures comme ça. Et en face, vous avez des héros d'opéra, des héros de théâtre, des héros de littérature. Et ça se croise, et on commence à dire que le vrai héros, c'est pas celui qui va faire la bataille, c'est celui qui a un grand cœur, qui est humaniste, qui est généreux. Tout ça arrive à son apogée à la Révolution, où on considère que le héros, il y a une présentation non plus essentialiste, on est héros parce qu'on est un seigneur, un grand, un aristocrate, mais existentialiste, c'est le petit Joseph Barra qui combat les armées royales et qui meurt sous le feu en criant « Vive la République » alors qu'on lui fait crier « Vive le roi ». Et au XIXe siècle, eh bien, l'enseignement républicain reprend cette idée de héros. Avec Jeanne d'Arc qui est d'ailleurs laïcisée, on dit « Attendez, Jeanne d'Arc, le roi de France l'a abandonnée, l'Église l'a martyrisée, donc c'est presque une héroïne républicaine. » C'est de là que date le culte de Jeanne d'Arc qui n'est pas un culte d'extrême droite à l'origine. Et puis on met en avant, on rassemble tout le monde, Vercingétorix, Charlemagne, etc., etc. Et à partir de 14-18, on commence à désindividualiser les héros. On dit 14-18, on dit les poilus. Citez-moi un héros de 14-18, là tout de suite. Vous n'avez pas de nom qui vient.
Le soldat inconnu.
Exactement, soldat inconnu. Mouvement qui s'amplifie avec 39-45, les résistants. Bon, alors, de temps en temps, vous avez un Brossolette ou un Jean Moulin qui apparaît. Le Parti communiste essaye de construire ses héros comme Manouchian, qui, à mon sens, était beaucoup moins héroïque qu'on a pu le dire. Mais on est dans la collectivité. Et ces collectivités, aujourd'hui, n'émergent même plus de héros, émerge la notion de victime. Aujourd'hui, le héros, c'est un type, c'est un homme ou une femme qui a été victime d'un génocide, victime d'un massacre, victime d'un accident, victime de la fatalité. Mais on n'est plus dans l'héroïsation, ni individuelle comme pendant longtemps, ni collective. On est dans le culte de la victime qui a remplacé le culte du héros, avec quelques exceptions comme un Arnaud Beltrame, qui d'ailleurs est honoré par le président de la République. comme s'ils sentaient qu'il fallait quand même des héros qui incarnent ce qu'est
la nation française,
ce qui est la France aussi, ce panache, ce courage qui peut émerger de temps en temps, et on en a besoin pour écrire le roman national ou le récit national aujourd'hui, parce que comme l'écrit très bien Arthur Chevalier, on a besoin de réconcilier toutes ces communautés dont vous parliez tout à l'heure, de l'archipel français. Et c'est vrai que sortir un héros est quand même plus pratique que dire nous sommes formidables, nous autres Français.
Arthur Chevalier, c'est intéressant parce que justement vous défendez plutôt l'émotion dans l'histoire. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on cédait au tout émotionnel, mais que l'émotion a toujours fait partie de l'histoire. Et d'ailleurs, vous parlez de la Troisième République, comment elle s'est servie aussi des émotions, comme la monarchie, ça a été dit par Jean-Christophe Buisson, pour construire un récit national. Est-ce qu'on n'est pas passé justement de l'émotion au victimaire ? C'est ça la question.
En fait, disons que je pense que c'est une idée européenne. Enfin, comment dirais-je ? C'est une idée européenne qui a dégénérer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment. D'ailleurs, quand je remarque que l'émotion a une importance dans l'écriture de l'histoire et dans la façon dont nous ressentons l'histoire, c'est un fait. C'est pas forcément mon idée, c'est comme ça. C'est réel. C'est-à-dire que l'Europe a inventé, si vous voulez, l'intelligence de la vulnérabilité. Parce que quand elle a connu l'effondrement de l'Ancien Régime à la fin du XVIIIe siècle, bon, il y a eu la Révolution française, mais il n'y a pas eu que la Révolution française. C'est un système de classe qui s'est effondré sur une période de 40 à 50 ans. Il y a d'ailleurs des livres très célèbres qui ont décrit cette décrépitude. Hein. Je parle beaucoup dans ce livre des mémoires du prince de Ligne, parce qu'elles sont, de mon point de vue, très frappants. Mais en fait, avec l'effondrement de son système de classe, l'Europe qui dominait le monde, évidemment, a vécu du coup le sentiment de l'effondrement. Et s'est dit, en fait, l'idée qu'on avait de la puissance et de la raison pour laquelle on dominait, en fait, tout ça n'a pas existé. Tout ça n'existait pas. Tout ça n'avait pas de raison d'être puisque ça s'effondre en 10 ans, si vous voulez. Donc, la littérature l'avait pressenti. Le Don Quichotte de Cervantes, le Simplicius et Simplicimus de von Krivelfausen, le Tristram Shandy de Laurent Sterne, en France, Jacques le Fataliste de Diderot. C'est-à-dire, l'individu ridicule parce qu'il a trop cru en sa puissance et qui finalement, voilà, il s'effondre, finalement rien n'existe. Bon. Tout ça était poétique. Puisque l'Europe a dominé et la dernière civilisation à avoir dominé très fortement, il y en a eu d'autres avant elle, hein, c'est pas du tout un cas d'exception, et bien du coup forcément aujourd'hui, on s'en prend à elle si vous voulez, et on se rêve en tirant depuis 3 ou 4 siècles comme si on avait été particulièrement tyrannique par rapport à d'autres civilisations qui, quand elles ont été en situation de domination, ont fait exactement la même chose, c'est inévitable. Mais ce qu'on oublie de dire dans cette histoire, c'est que si l'Europe a inventé l'intelligence de la vulnérabilité, comme je viens de le dire, ce que ça permet aujourd'hui, c'est justement, c'est elle qui a créé les voies de recours pour les personnes qui ont souffert. C'est elle qui a créé le fait qu'on pouvait demander, entre guillemets, réparation quand on avait subi une domination injuste ou inhumaine.
Elle n'invente pas l'esclavage, elle l'abolit, d'ailleurs.
Déjà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait le pire, mais en attendant, si vous voulez, elle a aussi créé tous les outils pour, non pas présenter ses excuses, mais pour qu'il y ait des réparations et pour donner des droits aux gens qui sont objectivement des victimes. Toutes ces personnes qui insultent aujourd'hui l'Europe et qui ont des voies de recours, qui sont entendues dans la presse, qui ont une société qui est prête à accueillir leurs demandes, tout ça ne serait pas possible si l'Europe n'avait pas existé. Car ça, pour le coup, il n'y a pas une autre civilisation qui a dominé, qui a inventé une chose pareille. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une idée européenne qui a dégénéré. C'est-à-dire que ce que vous appelez victime, en fait, c'est une idée qui est, pour le dire très simplement, on pense que l'Europe est la seule civilisation à avoir dominé et commis des choses horribles.
Merci Arthur Chevalier, merci Jean-Christophe Buisson. On se retrouve toujours sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause. On continue à parler d'histoire, l'histoire qui passionne les Français. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Millau.
101.4.
Sud Radio.
Tout savoir sur le bien-être féminin avec Manae. Dans un instant, nous parlerons d'une solution complète pour se préparer au soleil tout en préservant sa peau. A tout de suite.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
À tous ceux qui hésitent entre les rigatoni, les capellini, les tortiglioni, c'est le même goût, non? À ceux qui cherchent la différence entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont repartir avec un paquet de coquillettes et basta. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes Barilla à 1,98€, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 mai, 2 kilos soit 1,39€ le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Chez Carglass, nos clients nous le disent. Un impact sur deux, fissure en moins de 3 semaines. Alors, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Mais ce n'est pas tout. En ce moment, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'appli Coyote. En version premium. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, zéro stress sur la route. Et zéro stress pour vos points. Alors, profitez-en maintenant. C'est jusqu'au 31 mai sur Carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Détails de l'étude et conditions sur Carglass.fr.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Arthur Chevalier, éditeur, écrivain, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du Cerf un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions ». Et nous sommes également avec Jean-Christophe Buisson, rédacteur en chef adjoint du Figaro, directeur adjoint pardon, du Figaro Magazine. Il anime l'émission historiquement chaude. Vous avez écrit beaucoup d'essais historiques, notamment l'un de vos derniers livres est un livre sur le fascisme, le noir et le brun. Et c'est intéressant puisque Arthur Chevalier fait plutôt dans son livre l'éloge, si ce n'est du roman national, du récit national, nous explique que l'histoire est une construction, donc il faut arrêter de tout déconstruire et peut-être continuer justement à créer, à réenchanter l'histoire. Mais quelle est la limite, si vous voulez, c'est pour ça que je vous parlais de vos livres sur le fascisme, vous en avez écrit également sur le communisme, on le rappelle, le siècle rouge, entre la propagande, justement, et la construction d'un récit historique.
Très, très subtile question, parce que construire un récit historique sur le moment est, à mon avis, de la propagande. En revanche, raconter l'histoire d'une nation, d'un pays, en laissant le temps nécessaire à l'étude approfondie des tenants, des aboutissants, relève de l'enseignement tout à fait légitime. Donc on peut toujours effectivement parler d'instrumentalisation, donc de propagande, lorsque Emmanuel Macron décide de commémorer à son avantage politique des personnalités ou des événements comme le débarquement ou la libération de Paris. Mais là, il ne fait que rebondir sur des faits historiques qui sont avérés, donc c'est un geste de toute façon politique. Moi, je considère pas ça comme de la propagande, parce que je considère effectivement, comme Arthur Chevalier, qu'on a besoin de se rappeler des moments communs, des moments de joie, des moments de partage collectif, historique, je déteste cette expression, mais je vais l'employer, pour refaire nation, parce que... Arthur Chevalier mentionne un auteur, un immense auteur que j'adore aussi, qui s'appelle Claudio Magris, et qui fait une distinction parfaite entre la notion d'identité et d'identitarisme. L'identité, c'est très bien. C'est l'identitarisme qui relève de l'idéologie, qui peut être effectivement qui est un dévoiement de l'identité, du respect, du culte de l'identité. Et l'identité, c'est pas forcément l'identité nationale, c'est aussi l'identité locale, c'est aussi l'identité régionale. Et Magris, qui est un grand européen, qui renvoie d'ailleurs dos à dos aussi bien les nationalistes purs et durs que les européistes béats, et qui raconte dans ce livre merveilleux Danube, publié juste avant la chute du mur, c'est une histoire, une géographie de l'Europe racontée de façon admirable, et bien que oui, on doit cultiver notre identité, on doit être fier de notre identité, parce que c'est ça qui nous a construit, En revanche, si cette identité devient un absolu, une fin en soi, là, on se prépare à des mauvais sentiments et un avenir sombre. Donc, la propagande, c'est justement ce qui relève de l'identitarisme, à mon avis. En revanche, le respect, le culte de l'identité à travers des événements et des figures majeures de notre identité, ça, je trouve ça très sain. Après, on peut parler de récupération politique, mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui.
Justement, vous parliez de... Je vous donne la parole, bien sûr, tout de suite, Arthur, mais vous parliez de récupération politique et de commémoration. La commémoration fait partie de la politique, mais c'est vrai que on n'a peut-être jamais autant commémoré qu'aujourd'hui, jamais autant panthéonisé, vous évoquiez le cas Manouchian tout à l'heure. Est-ce que paradoxalement, le fait de commémorer, n'est-ce pas révélateur peut-être du fait qu'on fait de moins en moins d'histoire et si on met en parallèle l'ignorance des étudiants de Sciences Po ou la malhonnêteté, je sais pas, mais il y a quand même une part d'ignorance là-dedans et le fait qu'on commémore de plus en plus, est-ce que la commémoration vient finalement pallier un manque d'histoire?
Disons, est-ce que ce rituel remplace l'absence de rituel du temps présent? Pas tant que ça, parce que d'ailleurs, quand on fait le procès de Macron en disant il a plus commémoré que tous les autres, que Sarkozy, que Chirac, etc. En fait, on mélange dans ces commémorations les commémorations et les hommages. Et les commémorations, c'est de l'histoire. Très bien, c'est encore une fois c'est Manouchian ou c'est des grandes figures de l'histoire. Mais il a fait des hommages à qui ? À Gisèle Halimi, à je crois Robert Badinter si je ne m'abuse, aux victimes du 7 octobre. Ça c'est de l'histoire au présent. Ça c'est envoyer des signaux pour dire nous sommes avec les victimes du 7 octobre, nous sommes fiers de ce qu'a fait Gisèle Halimi. Là ils disent l'histoire présente. Arnaud Beltrame, Françoise Radetzky, vous savez le SOS attentat, les victimes d'attentats. Donc là, il est quand même dans une construction politique en disant ben voilà, ces figures-là sont révélatrices de ce que doit être l'identité française. Donc il fait vraiment je pense les deux et il fait pas que de la commémoration passée si je puis dire, mais il fait aussi de l'hommage du temps présent pour dire voilà quels sont mes repères aujourd'hui et objectivement ces repères, bah après on peut en discuter politiquement, mais au moins il donne les marqueurs de ce qu'est son action et sa pensée de ce que doit être la France.
Arthur Chevalier, justement sur ces deux questions, est-ce qu'Emmanuel Macron commémore trop, est-ce que ça révèle finalement un manque d'histoire, et vous qui défendez le récit national, où est-ce que vous placez le curseur entre propagande et récit national?
En fait, on va dire que je suis d'accord avec Jean-Claude, c'est-à-dire que bon, la mémoire, d'accord, Emmanuel Macron il agit pas sur l'histoire, il agit sur la mémoire. La mémoire, elle ne peut pas être autre chose qu'un outil politique. Elle l'est par définition. Dans le cadre républicain, c'est très vertueux. Par exemple, on va assister aux commémorations du 6 juin, débarquement du 6 juin. Bon, fort heureusement, Emmanuel Macron ne va pas avoir un mot pour les soldats de la Wehrmacht qui ont souffert le jour du 6 juin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'il y ait un cadre. Enfin, voilà, on sert un pays, on sert un régime. Et notre mémoire à nous, avec ses souffrances et ses triomphes. Enfin, jusqu'ici, je crois pas que le récit national, qui est en fin de compte une suite d'actualisation de la définition de la France, si on veut le dire différemment, je crois pas que ce soit un sujet qui intellectuellement soit si intéressant que ça. Politiquement, c'est essentiel, parce que s'il s'effondre, il n'y a plus de société, et ça, c'est pas possible. Mais intellectuellement, c'est pas... On passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pas si intéressant, parce que rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. Un récit national, depuis tout temps, même sous les rois de France, il y avait un récit national, entre guillemets. Non, ce qui est beaucoup plus qu'inquiétant, et même ça concerne aussi l'histoire, c'est effectivement, on en parlait au début, mais vous voyez, tout est dans le tout, si je puis dire, c'est l'effondrement complet de l'état de la connaissance relativement à notre propre histoire. Le récit national, c'est l'histoire qu'on enseigne aux enfants, si vous voulez, c'est l'histoire qu'on enseigne à la société, c'est pas très intéressant. En revanche, l'histoire telle qu'on la parle, enfin telle que comme un sujet de discussion, si je puis dire, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plus de connaissance des choses. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir de débats nuancés, complexes et un peu sophistiqués sur les choses parce que on vit dans l'ignorance, et précisément on vit dans l'ignorance parce que on préfère à ça l'émotion qui permet d'être beaucoup plus brève et de tout résumer à des moments très précis qui nous ont touchés particulièrement au nom justement de notre identité. Mais du coup, forcément, quand vous faites ça, eh ben, vous détruisez toute forme de discours et donc vous détruisez l'effort qu'il faut faire pour se tourner vers la connaissance. C'est-à-dire que ça nécessite aussi un effort, ça nécessite aussi un temps mental disponible et ça nécessite aussi une organisation de la société. Donc je pense que Macron, Il démultiplie les commémorations parce qu'il vit dans un pays qui est politiquement fragmenté et donc du coup il veut le rassembler par l'histoire. Il se dit que c'est un outil qui peut être un peu plus rassembleur que la politique. Moyennant quoi, j'ai tendance à penser qu'en fait on pense qu'on peut faire beaucoup de choses à une société qu'en réalité elle est beaucoup plus autonome que ce qu'on pense et elle a finalement assez peu de, elle réagit finalement assez peu à ce qui se passe en haut. Une statistique assez intéressante qui est sortie en début d'année d'après un laboratoire de Yale, si je ne m'abuse, en tout cas une grande université de la Ivy League, qui démontrait que la mobilité sociale de la Révolution française était quasiment nulle. Je le dis différemment, en gros la Révolution française n'a enrichi personne. Donc en fait ça a été un grand moment politique, ça ne veut pas dire que c'était mal ni rien, mais en termes de promotion sociale ça n'a pas eu un effet considérable du tout. Vous voyez, pourtant, vous voyez, typiquement un moment qui reste dans l'histoire et qui a eu assez peu d'effet. Donc c'est pour ça que, à mon avis, ce qu'on entend
à court terme en tout cas.
Non, mais ça a changé une structure d'une société. Mais je veux dire, économiquement parlant, les gens qui sont enrichis grâce à ça, si on étudie la révolution de 1789, l'étude remonte jusqu'aux années 2010, je crois. Donc c'est très long. En fait, c'est très peu de personnes qui, en état d'indigence totale sous la révolution, sont devenus riches ou ont créé des grandes dynasties, si vous voulez. En fin de compte, les gens qui ont acheté les biens nationaux étaient déjà des gens qui avaient de l'argent, c'était des propriétaires terriens. Ça a permis de se débarrasser de l'aristocratie, entre guillemets, si vous voulez, et de donner à la bourgeoisie plus de pouvoir. Mais enfin, en réalité, étaient déjà en situation de domination. Passons là-dessus. Juste pour dire que l'émotion, ça renvoie, entre guillemets, aujourd'hui, et Emmanuel Macron essaye d'insister là-dessus, ça renvoie à un moment d'une société qui ne réagit plus qu'à ça et qui, en fait, ne veut plus prendre le temps du discours, n'a plus le temps pour les arguments. Et effectivement, une commémoration, l'avantage d'une commémoration sur un livre, c'est que c'est une heure, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, je veux dire, ça touche les gens ou ça les touche pas. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron les démultiplie aussi, c'est parce qu'il sait, là-dessus, il est quand même pas mauvais, il sait très bien que le monde dans lequel on vit, c'est celui-ci. Lui-même, d'ailleurs, est un homme qui fait le premier président de la République à se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'il a totalement intégré dans sa façon de faire de la communication politique. Et donc, naturellement, il le décline à l'histoire. Ça peut être une solution, peut-être que ça peut ramener des gens vers la nation française, pourquoi pas, mais d'un autre côté, il y a des destructions là-dedans, c'est qu'on abandonne complètement la nuance, la complexité et la connaissance, et surtout l'effort qui est requis pour aller vers l'histoire.
Merci Arthur Chevalier, merci Jean-Christophe Buisson. On se retrouve sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause. On continue à parler de l'histoire, histoire, sujet constant de polémique dans la société française. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dans nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Mende.
101.9.
Sud Radio.
On va aux courses de chevaux dimanche. Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
Bonjour, je m'appelle Lucie Charnet. Je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et réduire leurs factures.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui. Et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés au rayon fromage et glace. Comme la feta grecque AOP Carrefour Extra qui passe de 2,89€ à 2,45€. Soit 15% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Barquette de 200 grammes, prix baissé à compter du 6 mai 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Eh, viens voir! Le voisin s'est découvert une passion pour les plantes. Il en met partout sur son balcon.
Mais non, il se prépare pour les fortes chaleurs.
Avec des plantes?
Ouais, avec des plantes.
Eh oui, les fortes chaleurs vont arriver plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour vous protéger, préparez-vous dès maintenant en installant par exemple des plantes devant vos fenêtres pour bloquer les rayons du soleil. Découvrez plus de gestes simples sur vivreavecchaleur.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Arthur Chevalier, éditeur, spécialiste de Napoléon. Il vient de publier aux éditions du Cerf un essai intitulé « L'histoire à l'épreuve des émotions » et avec Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, auteur de nombreux essais historiques. Il anime également l'émission « Historiquement chaud » sur la chaîne Histoire. Et Jean-Christophe Buisson, vous vouliez réagir aux propos d'Arthur Chevalier avant la pause sur cette dictature de l'émotion et sur le fait qu'on était dans une société qui ne voulait plus faire d'efforts, je crois, aussi.
Oui, mais... surtout l'absence de culture plus la dictature de l'émotion et l'émotion égale, quand j'ai sorti mon livre Le Noir et le Brun sur l'histoire des fascismes au XXe siècle, Giorgia Meloni venait d'accéder à la présidence du Conseil italien. Toutes les questions auxquelles j'avais droit, c'était en quoi est-elle fasciste, post-fasciste, etc. Et toutes mes réponses consistaient à dire elle n'est pas post-fasciste. Elle ne va pas faire un régime totalitaire mussolinien une fois qu'elle sera au pouvoir. Et vous voyez le résultat un an et demi après. On peut tout à fait contester certaines de ses décisions politiquement, mais elle a continué à laisser venir les migrants, elle est anti-russe, enfin contre le gouvernement de Poutine, elle est totalement intégrée à l'Union européenne, elle n'a pas fait une politique économique de guerre comme pouvaient le faire les régimes fascistes. Enfin, les libertés publiques n'ont pas été écrasées. Et c'est frappant parce que il fallait absolument à l'époque que l'émotion une italienne qui est très classée à droite, donc elle est forcément fasciste. L'absence de culture qui fait qu'on ne sait même pas définir le fascisme parce que tout est devenu fasciste à partir du moment où tout anticommuniste est un chien, bah tout anticommuniste est un fasciste. On reste sur cette idée-là de Sartre il y a 50 ans. Donc, elle est italienne, elle est droite, donc elle est fasciste, donc on va avoir droit au fascisme. Et ça, c'est l'émotion plus l'absence de culture, parce que si on a un tout petit peu de culture, on voit très bien son programme avant qu'elle accède au pouvoir, ce n'est pas un programme fasciste. On peut le considérer comme populiste, vous connaissez bien le sujet, Alexandre, mais ni comme fasciste, ni comme post-fasciste. Et ça, c'est un des désastres, je trouve, de cette absence de culture historique, de base, des fondamentaux, plus l'émotion qui fait qu'on a peur, peut-être légitimement, que la droite arrive au pouvoir, très bien, mais droite égale pas fascisme. La preuve, c'est que le fascisme est né à gauche.
Oui, c'est bien de...
Et parfois, il est mort aussi de ce côté-là.
C'est bien de le rappeler. Arthur Chevalier, je vous ai posé la question tout à l'heure sur la différence entre propagande, récit historique. Jean-Christophe Buisson a parlé de Giorgia Meloni, ce qui me permet de rebondir sur Vladimir Poutine, qui, pour le coup, fait des discours... où il se sert beaucoup de l'histoire justement pour légitimer la guerre actuelle qu'il mène à l'Ukraine. Comment faire pour le coup, est-ce qu'il faudrait déconstruire intelligemment les discours de Vladimir Poutine et pourquoi ça fonctionne aussi bien?
Eh oui, mais c'est-à-dire que moi, Vladimir Poutine, même dans sa version light, c'est-à-dire avant qu'il fasse la guerre, j'ai jamais été fan, précisément parce que je fais pas confiance, parce que je historiquement, je suis d'accord avec Jean-Christophe, l'histoire ne se répète jamais, donc ça, c'est une erreur qu'on commet au quotidien, compris nous-mêmes d'ailleurs.
C'est vrai que beaucoup, moi y compris, j'avais un peu du mal avec la critique de Vladimir Poutine, parce qu'on est tellement biberonné à l'antifasciste que parfois on a des vrais fascistes qu'on ne voit plus, c'est aussi le danger.
C'est-à-dire que moi, un régime qui érige l'absence de tolérance, qui nie l'altérité au sens large du terme, je pense que ça finit toujours par dégénérer. C'est pourquoi j'ai jamais été fan de ça. De même que j'ai un peu de mal à relativiser le régime politique chinois. En fait, je pense que oui, la démocratie libérale, c'est mieux que ces régimes autoritaires. Je le pense fondamentalement pour quelque chose qui, moi, m'intéresse, qui est la vie intellectuelle d'un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'on peut survivre socialement dans une dictature, mais intellectuellement, il est assez rare qu'on puisse survivre. Ça, c'est clair. C'est le seul point commun de tous ces régimes autoritaires, même de ces nouveaux régimes. En fait, c'est que la liberté intellectuelle, en général, elle y passe pour le coup. Bon. Passons là-dessus. L'histoire se répète pas. Relativement à Vladimir Poutine, c'est intéressant, c'est que c'est pas tant la guerre en Ukraine qu'il essaie de légitimer que lui-même. C'est-à-dire que l'histoire est souvent employée pour être détournée parce qu'elle permet de créer une légitimité. Vous savez, un pouvoir, son premier objectif, c'est de se maintenir. quel qu'il soit, quel que soit le régime politique. Et en la matière, les moyens sont plutôt secondaires. Et il est assez rare que les gens aiment les usurpateurs, et encore moins ceux qui ont l'air de l'être, si vous voulez. Donc l'histoire permet de créer du lien, de créer de la continuité, même de façon artificielle. Vous savez, la France, quand sous l'Ancien Régime, elle a connu des transitions de dynastie. Hein. Par exemple, quand les Valois sont arrivés, qui était une branche des Capétiens, si vous voulez, quand les Valois sont arrivés, ils sont empressés de construire un récit historique pour essayer de montrer qu'ils étaient bien la continuité de la chose. Mmh. Il est très rare qu'un régime politique qui arrive par la voie des urnes ou par la voie révolutionnaire veuille s'afficher comme une véritable rupture. Vous voyez, par exemple, même la Révolution française avait créé un passé idéalisé. Il y a toujours dans l'idée de révolution l'idée d'un retour à un âge d'or. Vous voyez, la Révolution française elle-même parlait beaucoup d'histoire.
Un passé.
Oui, non mais bien
le
sûr que oui. Parce que
c'était
que...
l'Antiquité, c'était formidable parce que c'était avant.
Bien sûr,
non, mais
ce que je veux dire, c'est que la modernité totale et la projection totale vers le futur, c'est jamais un argument politique suffisant pour aucun nouveau régime qui apparaît. C'est pas vrai. C'est ça va aller mieux, c'est pas ça va aller mieux au nom de l'avenir. C'est ça va aller mieux.
Sauf le bolchevisme.
Oh non. Sauf le bolchevisme. Absolument. Ok. D'ailleurs, en quoi il est la version dégénérée de la Révolution française, entre guillemets, lui aussi. Encore une bonne idée qui a dégénéré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de Vladimir Poutine, évidemment, comme c'est une dictature, entre guillemets, en plein ce mot, enfin, c'est un régime autoritaire, évidemment, il raconte positivement n'importe quoi. On sait très bien comment est-ce qu'il a détruit tous les lieux de mémoire, justement, des atrocités bolcheviques. Et comment est-ce qu'en fait, il veut renouer avec un impérialisme très rudimentaire. Et rien de plus simple pour nouer avec un impérialisme rudimentaire que de ramener un peuple à des idées idiotes et simplistes comme c'était la Russie des tsars, c'était la Russie communiste. En gros, on était puissants, quoi. Voilà, globalement. Donc, de ce point de vue... C'est aussi ça le problème, vous voyez, des sociétés autoritaires où il y a un contrôle sur la liberté d'expression, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, les idées passent plus. Les idées ne s'expriment plus. Les gens ne lisent plus de livres. Pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils sont idiots, mais parce qu'en fait, l'écosystème de la société fait que ça ne les porte plus vers ça. Et dans le cas de la Russie, c'est particulièrement intéressant car c'est un grand peuple de littérature. Enfin, je veux dire, c'est sûrement une des trois ou quatre plus grandes littératures du monde. Sûrement un des deux ou trois plus grands cinémas du monde. Donc, vous
est-ce
voyez
que c'est vrai, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les Russes lisent moins que nous? J'ai un peu de mal à le croire. Mais...
Je dis pas. Alors, en revanche, il y a une chose qui est réelle, c'est que si vous passez du temps à Moscou, ce qui a été mon cas, il y a moins de librairies à Moscou qu'il y en a à Paris. C'est pas bon, vous me direz, il y en a aussi très peu à Londres. Mais vous voyez, ils ont pas
de manga.
Non, voilà. Bien sûr. Ça veut pas dire que la littérature ne les habite plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais simplement, je pense que dans le cas de l'histoire, elle permet de créer une légitimité artificielle. C'est le chemin le plus court vers ce processus indispensable pour un pouvoir de se maintenir. Et ça recoupe exactement dans le cadre d'une démocratie ce que fait Emmanuel Macron, hein. Sans comparaison, bien entendu. Mais je veux dire, le récit national, c'est ça aussi. Sauf que dans le cas de Poutine, évidemment, comme il n'y a pas d'opposition intellectuelle et qu'elle ne peut pas s'exprimer, il peut raconter n'importe quoi à longueur de journée. Vous n'avez pas des historiens interviewés sur des chaînes de radio ou des chaînes de télé très écoutés qui peuvent dire, mais non, il raconte positivement n'importe quoi sur tel ou tel fait.
Mais moi, je veux bien vous suivre sur le fait qu'il y avait des prémices de ce qu'allait faire Poutine intellectuellement après février 2022. Mais moi, j'ai toujours en mémoire ce qu'il disait sur l'Union soviétique. Et il le pensait sincèrement, et tout s'est accéléré quand même après le février 2022. Il disait, celui qui regrette l'URSS n'a pas de mémoire, celui qu'il ne la regrette pas n'a pas de cœur. Et je pense que ça c'est un espèce d'en même temps local, et ça résumait très bien ce qu'était Poutine. C'était effectivement, il faut pas cultiver l'Union soviétique, les goulags, etc., mais il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais moi, je vais souvent dans les Balkans, je vous assure que les Serbes, ils ont la même espèce de yougo-nostalgie de ça. Ils savent très bien que le régime de Tito est un régime autoritaire, voire dictatorial, qu'il y avait des gens qui allaient dans les camps, que tous les opposants étaient soit en exil, soit en prison, soit mort. Et pour autant, aujourd'hui, ils se disent quand même il y avait une façon de vivre, un art de vivre, d'exister diplomatiquement sur la scène internationale, qui n'était pas si désagréable. Et je pense que c'est l'ambiguïté de toutes les nations, d'avoir quand même une sorte de nostalgie pour un passé qui est bien sûr idéalisé, bien sûr fantasmé. Et quand Poutine dit ça, il dit l'URSS a commis des atrocités, mais en même temps, on était une grande puissance mondiale, on rivalisait avec les États-Unis, et ce qui est factuellement vrai. Et donc ça, on peut le regretter qu'on n'en soit plus là. Mais si il faut une dictature qui met des millions de gens dans les goulags pour en arriver là... est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça la question qu'il fallait poser à Poutine. Et ce qu'il dit depuis 2022, c'est que, bah oui.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais avant, je reste persuadé qu'il n'était pas dans cette.
Il y a sans doute eu un basculement. On continue à parler de Poutine, mais aussi d'histoire de France, notamment après la pause, en toute vérité, sur Sud Radio, toujours avec Arthur Chevalier et Jean-Christophe Bisson. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Tout savoir sur le bien-être féminin avec Manae.
Bonjour Margot Blin.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne responsable de l'innovation chez Manae et vous nous parlez de Manae Solaire.
Oui, alors Manae Solaire, c'est une solution complète qui prépare, active et prolonge le bronzage. Mm-hmm. Du coup, on obtient un hâle progressif, uniforme, plus éclatant et qui dure plus longtemps.
Très bien. Quel est le secret ?
Eh bien, Manae Solaire associe des plantes, des pigments naturels et des micronutriments mm-hmm. pour ensoleiller le teint, limiter le vieillissement cellulaire et nourrir la peau pour qu'elle reste éclatante tout l'été.
Ça, c'est parfait. Et où trouve-t-on Manae Solaire ?
En pharmacie et parapharmacie.
Merci.
Ce produit ne dispense pas d'une protection solaire. Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sud Radio Menton.
97.9.
Sud Radio.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque. Retrouvez une interview avec Ophélie Meunier, animatrice star d'M6. Sylvie Vartan, elle revient sur sa carrière. Des nouvelles de la santé de Kate Middleton. Les coulisses du Festival de Cannes avec Camille Cotin et Léa Seydoux. Charlotte Gainsbourg, elle reprend sa vie en main. Gabriel Attal, un premier ministre qui veut agir. Journal de France, un magazine La Fond Presse, en vente chez votre marchand de journaux.
Chez Ixina, à partir de 2 990 €, vous avez une cuisine sur mesure et électro inclus. Et en plus, vous avez un conseiller dédié pour tout votre projet. Ah oui, en plus, elle est garantie 10 ans. En fait, le prix Ixina, c'est vraiment bien plus qu'un prix. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur Ixina.fr.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Chérie, vite, je me suis encore douchée avec mes aides auditives. Prépare-moi vite ma paire de secours.
T'es vraiment tête en l'air. Tiens, les voilà.
Merci, chérie.
Remercie Afflelou plutôt.
Ok, merci Afflelou.
Chin Chin, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 € de plus. Afflelou, c'est le bon choix.
Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
À tous ceux qui décident de ranger leur bibliothèque. À ceux qui se disent, tiens, et si je regardais ce docu sur la photosynthèse ? Ah non, mieux, je vais me faire un sudoku. Bref, à ceux qui veulent tout faire, sauf le ménage. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon entretien en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 19 mai, des 15 € et jusqu'à 25 € d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité pour parler d'histoire avec Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, qui présente aussi l'émission Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Il est auteur de nombreux essais historiques comme Le Noir et le Brun sur le fascisme, Le Cercle Rouge sur le siècle rouge. Non, vous n'êtes pas cinéaste encore. Et le siècle rouge sur qui sont des éditions Perrin d'ailleurs à lire et Arthur Chevalier qui vient de publier aux éditions du Cerf cette fois l'histoire à l'épreuve des émotions. Je voudrais qu'on parle aussi de votre passion pour l'histoire, d'où elle vient, puisque vous parlez de l'histoire comme vecteur d'émotion. Mais peut-être une dernière question sur les polémiques autour de l'histoire aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de propagande, de construction historique. On a vu le danger que cela pouvait représenter, notamment à travers l'exemple de Vladimir Poutine. Mais ce que vous dénoncez, vous, dans votre livre, c'est peut-être autre chose. C'est une logique de la table rase, un révisionnisme radical auquel vous avez peut-être été confronté quand vous avez été commissaire de l'exposition Napoléon au moment du bicentenaire, c'était au Grand Palais. Vous racontez cette expérience qui était difficile. Donc il y a plusieurs questions dans ma question. Hein. Je dis pas que vous avez été victime de révisionnisme radical, mais non, expliquez-nous mais tout ça.
C'est-à-dire que ça m'a. Alors si on parle de cette expérience, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Pas tant dans la façon de faire l'exposition que depuis ce poste d'observation où j'ai été et qui s'inscrivait dans le bicentenaire de la mort de Napoléon, qui d'ailleurs pour vous aussi messieurs a été un moment d'actualité forte avec beaucoup d'articles, beaucoup de numéros. Enfin bon, ça a occupé la France entière. Et ce qui était rigolo, on va dire, c'est de voir ça pour le coup, il y en a eu beaucoup. Et comme je le dis souvent, pas du tout que des hommes politiques de gauche, beaucoup de droite qui ne voulaient pas entendre parler de cette exposition parce qu'elle était un des fers de lance évidemment de ce bicentenaire, mais du bicentenaire tout court en fait. Et comme nous le savons, le président de la République aura finalement fait un discours bonapartiste sous la coupole de l'Institut.
Par parenthèse, le bicentenaire du SAC, c'est un gouvernement de droite qui a refusé de le
absolument
commémorer.
Absolument. Et Jacques Chirac avait refusé lui-même de célébrer Austerlitz tout en allant célébrer Waterloo. Bon. bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est des pudeurs incompréhensibles au regard de ce qui a été l'histoire du Premier Empire et du Consulat. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu des choses atroces de fait. Mais il y a aussi eu des choses extravagantes et extraordinaires qui aujourd'hui encore, on en tire encore des bénéfices, hein, si je puis dire, le monde dans lequel nous vivons et le monde de Napoléon, hein, quasiment la moitié des lois du code civil sont inchangées depuis qu'il a été créé sous le consulat. Donc on n'a pas le choix d'aimer ou pas aimer Napoléon, c'est nous, il est au cœur de nous, ça veut pas dire qu'on doit l'aimer, ça veut dire qu'il fait partie de nous. Justement, on doit le diagnostiquer, en rejeter ce qu'on veut en rejeter, c'est pas la question, mais ça fait partie de nous. Et j'ai été très frappé par... l'enthousiasme général, je veux dire populaire, au sens simple du mot, vous voyez, pour ce bicentenaire, et les pudeurs insensées de la part d'hommes politiques de premier plan, qui pensaient qu'on allait créer des polémiques à n'en plus finir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit à ce moment-là, putain, mais c'est dingue, en fait, on peut avoir une classe, encore une fois, pas tous, puisque le président de la République s'est très bien tenu, donc c'est pas la question, on a fait le boulot, mais je me suis dit, on a une classe politique qui a à ce point peur de notre passé. Mais et là, ça rejoint vraiment ce que je veux dire dans mon livre, c'est-à-dire que le problème, c'est pas d'idéaliser le passé de la France. Personne ne demande de faire ça. Personne n'a dit que la France était un pays vertueux par nature, qui avait fait que des choses bien. Pas du tout, c'est pas ça. Mais simplement, qu'est-ce que c'est que cette logique ridicule qu'on appelle cancel, j'aime pas trop les barbaristes, voilà. Les barbaristes d'origine américaine, mais enfin bon, c'est ça qu'on voit très
culture
bien.
Culture de l'effacement, ouais.
Pourquoi est-ce qu'on devrait interdire une chose? Parce que, en son sein, elle enferme une part d'impureté et de choses qui en tout cas devraient nous faire honte. Mais c'est idiot.
Mais est-ce que c'est une politique qu'on confrontait? On peur du passé ou on peur de la réaction supposée des gens si on célèbre ce passé qui a des zones d'ombre?
Mais justement, je pense que vous faites beaucoup de crédit, Jean-Christophe.
Ah oui, mais je pense qu'en fait, dites vous-même que vous avez tous les gens qui sont venus sur l'exposition étaient enthousiastes.
C'était très très familial, je veux dire.
Et si on poursuit, un an après, il y avait la sortie du film de Ridley Scott dont on peut penser ce qu'on veut
et dont tout le monde a parlé.
Et il y a eu aucune polémique.
Bien sûr.
Quasiment. Donc c'est bien la preuve que là, les hommes politiques ont dit oui, effectivement, ça n'a pas fait de polémique sur le bicentenaire, donc on va se taire. Et ils ont bien fait. Après, on pouvait polémiquer sur la nature du film. Sur son crédit historique, etc. Mais ce qui est bien la preuve que je pense que les hommes politiques ont moins peur du passé que de la réaction de leurs électeurs potentiels que ce passé peut choquer.
Je suis partiellement d'accord parce que moi je pense en fait que les hommes politiques, je veux dire pas tous encore une fois, mais je suis moi aussi frappé par le niveau d'inculture. D'ignorance d'hommes politiques, en fait, c'est pas parce que quelqu'un est ministre qu'il lit des livres et il est au courant de l'histoire de France.
Non, mais je veux dire. C'est plutôt même le contraire.
Non, mais si vous voulez, c'est la garantie de rien, ouais, ce que je veux dire.
Vous êtes dur avec
Bruno
Le Maire.
Et ça, pour le coup, c'est. J'attaque personne, mais. Et ça, pour le coup, c'est très représentatif du monde dans lequel on vit, encore une fois. C'est pas nouveau, c'est pas une invention de la modernité, ça arrive parfois, ça passe, mais là, on est dans un moment où la sophistication intellectuelle, ça n'intéresse plus personne, et donc ça pénètre beaucoup moins dans la société, y compris d'ailleurs au sein des élites. Mais vous voyez bien ce moment émotionnel. Moi, les passations de pouvoir des gouvernements depuis une quinzaine d'années me fascinent. C'est-à-dire que vous voyez des ministres qui arrivent et qui disent, je pense à ma grand-mère, mon papa et ma maman. Mais t'es ministre de la République française, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout le moment de se faire plaisir, c'est une passation de pouvoir, c'est pas la propriété, on t'offre pas une maison, ni un bureau, tu occupes une fonction publique, enfin, ce que je veux dire. Et on voit bien que pour eux,
une responsabilité, c'est un devoir, normalement.
Et ils ont besoin aussi de mettre en avant de façon excessive leur identité, leur individualité, leur vie personnelle, ils en sentent le besoin et leurs communicants leur disent que c'est nécessaire, plutôt que de faire, et d'ailleurs personne ne le fait, un discours de 35 minutes sur André Malraux quand on devient ministre de la Culture.
Le désespoir.
Par exemple,
évident.
Il le déshistoricise.
Exactement. Mmh. Il le déshistoricise. C'est-à-dire que ça fait juste, c'est simple. La disparition de la culture, c'est juste qu'on le voit plus dans notre entourage. On en parle moins à la télé. C'est juste ça. C'est pas autre chose. Et ça, c'est un fait. Encore une fois, c'est pas une nouveauté. On l'a déjà vécu. On préfère des grands moments de sincérité, des moments d'émotion, des moments où quelqu'un pleure, des moments où quelqu'un crie, des moments où quelqu'un s'indigne. Je pense que ce livre, Indignez-vous, de Stéphane Hessel, a été le juste cri d'une génération. Et maintenant, on peut publier un nouveau livre qui s'appelait Mettez-vous à réfléchir.
Alors, Arthur Chevalier dénonce finalement une forme de télé-réalité qui aurait remplacé l'histoire. Jean-Christophe Buisson, vous parlez quand même des politiques qui étaient terrorisées, pas par les Français sans doute, parce qu'il faut rappeler le succès de votre émission, le succès de l'histoire en général, le succès qu'a été cette exposition sur Napoléon.
Des livres, des
le film, malgré ses défauts, a été bien. Enfin, les gens se sont précipités la première semaine parce qu'ils étaient intéressés par Napoléon. Donc il y a des hommes politiques qui sont quand même terrorisés par des minorités bruyantes. Vous disiez tout à l'heure, on leur accorde trop d'importance. Est-ce que c'est pas le cas? Ouais, justement.
Il faut
peut-être moins en parler, se moquer d'eux peut-être. Mais
ouais, moi j'ai ce sentiment. Mais se moquer d'eux devient aussi dangereux, difficile
et dangereux.
Mais moi je suis vraiment frappé par effectivement la passion que les gens continuent à avoir pour l'histoire. On a beau traîner dans la boue les émissions de Stéphane Bern ou de Franck Ferrand, ils font de l'audience. Et c'est ça. Le problème aussi, c'est que l'enseignement de l'histoire était confisqué à un moment donné par une caste d'universitaires qui considéraient qu'il fallait raconter l'histoire par des tout petits détails, la raconter dans une gangue marxisante qui est que c'est des grands mouvements collectifs, que l'histoire est dépendante du climat, de l'économie, des finances, et pas tellement des hommes qui font l'histoire, même si, comme disait Raymond Aron, on ne sait pas quelle histoire ils font, mais ce sont les hommes qui font l'histoire. On a négligé ça. Et qu'est-ce que les gens adorent? Moi, je vois dans les réactions sur les livres ou sur mes émissions, ils adorent qu'on leur raconte des histoires d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire, qui ont participé à l'histoire, qui ont dirigé des armées, des mouvements, et aussi bien, encore une fois, de gauche ou de droite. Là, il n'y a plus de gauche ou de droite, c'est l'histoire globalement. Et ça contraste effectivement avec l'inculture ou la crainte de certains hommes politiques que cette histoire bien soit récupérée par l'émotion, par la notion où est la victime dans cette histoire. Il n'y en a pas forcément. Si, il y en a, mais peu importe.
Chacun son tour.
Chacun son tour. L'histoire est une roue rouge, comme disait Solzhenitsyn, pour reprendre cette expression. Et ça me frappe beaucoup, ce décalage que Arthur Chevalier a ressenti lorsqu'il faisait, quand il était commissaire de cette exposition, entre une certaine élite et le peuple qui vient voir Napoléon sans penser mal, qui vit le moment d'histoire qui a été Napoléon, qui l'apprécie. Et puis, les autres sujets, c'est fait pour les spécialistes, les historiens, qui vont se disputer sur le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était par rapport à l'économie, par rapport aux Anglais, par rapport à sa femme, etc. Mais ce sont des détails. Globalement, on retient de Napoléon une histoire épique qui fait la fierté des Français.
L'émission touche presque à sa fin, Arthur Chevalier. Je voudrais
C'est ce que vient de dire Jean-Christophe est très important, et ça, c'est bien sûr que c'est l'histoire collective. Tous les hommes font l'histoire, évidemment, c'est l'histoire de l'humanité. Mais quand on dit que c'est pas les grands hommes qui font l'histoire, je veux dire qu'on a tendance à les invisibiliser. Demandez-vous simplement ce qu'aurait donné la Seconde Guerre mondiale si ça n'avait pas été Roosevelt, le président des États-Unis, et Winston Churchill, le Premier ministre. D'ailleurs, avant Winston Churchill, c'était pas eu le Premier ministre. Et quand c'était pas De Gaulle, le chef de la France, on voit très bien ce que ça a donné. Donc, si c'est pas les grands hommes qui font l'histoire.
Et justement, il nous reste une minute. Vous êtes tous les deux passionnés d'histoire. Je voulais savoir comment était née votre passion. Quelle figure vous avez inspiré, Arthur Chevalier? Je suppose que c'est Napoléon, mais peut-être que je me trompe. Il y en a peut-être d'autres.
Napoléon, Louis XIV, Château de la Loire. Enfin, c'était vraiment du folklore de l'histoire de France qu'on adore, quoi, voilà. Les Trois Mousquetaires, enfin l'histoire de la culture populaire, quoi, voilà, très simplement.
Jean-Christophe Buisson.
Moi, c'est vraiment Napoléon Louis XIV, mais par Jacques Bainville. C'est en lisant les livres de Jacques Bainville que je me suis mis à aimer les grandes figures de l'histoire, et par des professeurs, ce qu'il faut dire avant tout, c'est souvent la passion de l'histoire chez les historiens naît parce qu'il y a quelqu'un qui vous a enseigné à un moment donné l'histoire d'une telle manière que vous avez décidé d'aller plus loin. Moi, c'est vraiment mon cas.
Bien sûr, et il faut vraiment se détendre par rapport à l'histoire. Vraiment, il faut se décontracter par rapport à ça. C'est cool, l'histoire.
Et ben voilà, on termine là-dessus. C'est cool, l'histoire. Ce sera le mot de la fin d'Arthur Chevalier. Mais en tout cas, lisez, inscrivez-vous, dévorez des romans historiques. Et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour un nouveau numéro Dans toute vérité. En attendant, je vous laisse avec les informations. Merci, à bientôt.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 31 mai, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote en version premium. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font
chut, mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, elle est à 1,39€.
Dans quoi on s'est embarqué?
Dans les barquettes de framboises. Dès demain chez Lidl, la barquette de 125 grammes est à 1,39€. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%. 1,18€ la barquette.
Bon, t'arrêtes avec tes barquettes.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 11,12€ le kilo, 9,44€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Maroc, Espagne ou Portugal. Plus d'informations sur Lidl.fr.
S'il vous plaît, je vais faire un discours. Avant de fêter Hugo, un mot sur moi. Sinon vous allez passer la soirée à me le demander. Donc oui, mes chaussures viennent de chez Sarenza.com, évidemment. Mais aussi ma robe, ma veste, mon sac. Oui, je sais, c'est très beau, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, tous les looks et les meilleures offres sont sur
Sarenza.com.
Merci l'orchestre. Et sur ce, joyeux anniversaire Hugo.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.